Radio Okapi. Le journal Belinda Bosuma.
Reconnaissance des cas de COVID-19 à Boma. En moins de 15 jours, on compte 107 cas, ce qui ramène à 1065 cas dans toute la province du Congo central, avec plus de 22 décès. Le maire de Boma invite ses administrés au respect strict des mesures barrières. Ituri, difficulté des soins médicaux pour 17 personnes grièvement blessées lors de la dernière attaque de la Codeco à Mongualou. Le médecin directeur de l'hôpital général de Mongualou lance un SOS aux autorités provinciales et aux bonnes volontés pour venir en aide à ces vulnérables. Et puis ce midi, nous recevons Jérémy Mouindo, président de la commission aux prises en charge médicales au sein du comité de riposte contre Ebola à Beni. Il nous parle de l'incendie qui a consumé la semaine dernière la crèche du centre de traitement d'Ebola à l'hôpital général de Beni. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Congo central. On signale la recrudescence des cas de COVID-19 dans la ville de Boma. Le maire de la ville indique qu'en moins de 15 jours, la ville a notifié 107 cas. Marie-Josée Nyongo-Swami invite ses administrés au respect strict des mesures barrières telles qu'édictées par les autorités sanitaires. Le ministère de la Santé ayant déjà déclaré la survenue de la quatrième vague de coronavirus. Le point avec Nana Plurish Mambo.
La propagation de la COVID-19 à un rythme effréné dans la ville de Boma pousse l'autorité urbaine à confirmer la survenue de la quatrième vague puisque cette recrudescence intervient après une longue période d'accalmie. Selon Marie-Josée Nyongo-Swami, du 29 novembre où le premier cas a été enregistré jusqu'à hier lundi, soit 15 jours, la ville de Boma a notifié 107 cas. 103 personnes soignées à domicile font la forme bénigne, tandis que 3 personnes parmi les 4 qui faisaient la forme sévère sont mortes. La dernière personne est internée dans le centre de traitement COVID-19 de Boma. Pour freiner l'élan des contaminations, le maire de Boma appelle la population au respect strict des mesures barrières. Marie-Josée Nyongo-Swami.
Je m'inquiète sur la montée en flèche de cas de COVID-19 dans la ville de Boma. J'invite instamment mes compatriotes à respecter les gestes barrières dans les mesures préventives. Il y a aussi la vaccination qui s'est ajoutée, où 3 vaccins sont disponibles dans 5 sites à travers la ville de Boma. La vitesse de contamination que nous observons dans la ville présage qu'il y a déjà un nouveau variant qui affecte notre milieu.
Notons que cette recrudescence concerne 27 sur les 31 zones de santé que compte le Congo central. Depuis le 4 octobre à ce jour, plus de 1065 cas y ont été enregistrés avec plus de 22 décès. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, en Ituri, 17 personnes grièvement blessées par balle lors de la dernière attaque de la Codeco à Mongualou, 85 km au nord de Bunia, éprouvent d'énormes difficultés pour leurs soins médicaux. La plupart sont des femmes et des enfants. Information rapportée par le médecin directeur de l'hôpital général de Mongualou, selon Didier Lungiringa. Sa structure qui assure jusqu'ici leur prise en charge médicale n'en a plus les moyens. Il lance un appel aux autorités provinciales et à d'autres personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces vulnérables. Le médecin directeur de l'hôpital général de Mongualou explique la situation au téléphone de Clarisse Zindula.
Les atrocités qui se sont passées au courant de la semaine passée a fait que beaucoup de blessés qui étaient coupés à la machette, d'autres qui étaient tombés dans des trous, ils sont venus à l'hôpital pour les soins. Et donc ils sont au-delà des 10 et ils traversent des moments difficiles parce que les soins, ils doivent payer les soins, ils doivent payer les médicaments, ce qui n'est pas aisé. L'hôpital fait de même pour leur fournir le minimum, mais nous aussi nous sommes un peu limités. C'est pourquoi il serait peut-être souhaitable qu'il y ait un appui pour pouvoir bien s'occuper et soigner ces malades. Au niveau du gouvernorat de la province, si on peut appuyer l'hôpital, ce serait intéressant. Mais en dehors de la province, des hommes de bonne volonté, des opérateurs économiques qui peuvent nous venir en aide, ce serait vraiment utile pour cette population démunie qui a traversé ces moments difficiles d'atrocité ici à Mongualou, et surtout les blessés, pour qu'ils aient quand même un moyen de se prendre à charge correctement.
Sud Kivu, le programme DDRCS veut se donner toutes les chances de réussir sa mission. Voilà pourquoi il organise du 13 au 15 décembre en cours 3 jours de réflexion sur le processus des démobilisations, désarmement et réinsertion communautaire et stabilisation. Objectif, définir des stratégies réalistes qui permettront une bonne mise en œuvre du programme et corriger les ratés du passé. Le colonel Pierre-Égide Boussalé est le coordonnateur adjoint de ce programme au micro de Cynthia Bachizi. Il explique la particularité priorités du nouveau programme PDDRCS par rapport à toutes les solutions de réinsertion et démobilisation déjà tentées.
Hier, on a préféré accorder plus d'attention à l'ex-combattant et c'est ce qui nous a valu ce que nous connaissons aujourd'hui comme faiblesse des deux premiers programmes. Cette fois-ci, nous avons pensé changer d'approche, accorder plus d'intérêt et d'attention aux communautés. C'est seulement au sein des communautés et dans les communautés que nous allons réinsérer les ex-combattants. Une autre nouveauté, cette fois-ci, on a l'avantage d'avoir le chef de l'État comme président du comité de pilotage. Hier, on a senti un faible accompagnement du gouvernement. Les défis sont énormes. C'est d'abord l'environnement politique et sécuritaire dans lequel va se dérouler ce programme. Comment implémenter le programme alors qu'il y a encore des opérations militaires en Ituri, au Nord Kivu? C'est ça tout l'enjeu. Et je crois que ce programme, bien harmonisé avec les opérations militaires, va contribuer à la sécurisation de l'ensemble des provinces de l'Est du pays. Parce qu'on sent de plus en plus une volonté parmi les ex-combattants d'adhérer à ce programme et de déposer les armes. Ce qui est une bonne chose qu'il faut encourager.
À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la présence des enfants en rupture des liens familiaux, communément appelés chégué, inquiète plus d'un Luchois. Plusieurs faits leur sont imputés. La Commission nationale des droits de l'homme en appelle à l'implication des autorités pour y trouver des solutions, car la présence des grands enfants dans la rue est de nature à renforcer l'insécurité. Des détails dans ce reportage de Jean Gando.
Ces enfants se retrouvent sur plusieurs artères de la ville. Parmi eux, on compte aussi des majeurs qui ont grandi pratiquement dans la rue. Ils sont prêts à tout faire pour la survie. C'est ainsi qu'Ozor Vespéral, il se positionne à différents endroits, dont l'angle des avenues Sendoué et Likassi, à côté de l'hôpital Janton Sendoué, où plusieurs personnes se sont vues attaquer, leurs biens emportés, et ceux qui tentent de résister molestés. Ils se droguent au vu et au su de tout le monde, sans qu'ils ne soient inquiétés. D'autres sont au niveau du tunnel qui mène vers le quartier Bel Air, dans la commune de Kampemba. On les retrouve également à la hauteur du marché Rail, sur boulevard Moussiri. De jour ou de nuit, traverser le boulevard Moussiri par la passerelle, c'est se mettre en danger et se voir dépouiller de tout. Pour plusieurs personnes, il est plus que temps que les autorités prennent des mesures idoines pour les encadrer et leur redonner l'espoir de vivre et débarrasser ainsi la ville de ce que d'aucuns qualifient d'une bombe à retardement. Maître Joseph Kongolo, coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, bureau du Haut-Katanga.
La CNDH est très inquiète. C'est vraiment un danger public qui renforce de l'insécurité. Il faudrait que l'autorité provinciale, ensemble avec les autres services sécuritaires et aussi les services qui s'occupent de l'encadrement de cette catégorie d'enfants, de se mettre autour d'une même table, d'échanger pour trouver des solutions le plus rapidement possible.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Justice au procès du meurtre d'Erossi Mukendi. Réplique et contre-réplique de dernier virage. Cet activiste du mouvement citoyen pour la démocratie a été tué le 25 février 2018 devant la paroisse Saint-Benoît de Lemba à Kinshasa. Presque toutes les parties ont plaidé. Il ne reste plus que le prévenu Tokis Kumbo qui le fera aujourd'hui. Après les parties civiles et le ministère public, hier c'était le tour de la défense de la commissaire de la police Karine Lokesso de plaider non coupable. Plus de détails avec Jeff Ngoy.
Accusée des violations de consignes par le ministère public qui a requis 10 ans de prison contre elle, la commissaire principale adjointe de la police, Karine Lokesso, pense qu'elle est en train de répondre des faits commis par autrui. Lors de sa plaidoirie, son conseil a relevé que la consigne donnée par le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo était d'ordre général que chaque élément devait observer. Karine n'avait pas utilisé les munitions létales, soutiennent ses avocats. Selon maître Étienne Lomela, on accuse sa cliente pour l'infraction commise par Franco Bivouala en fuite. Devant la cour militaire, Lomela a fait savoir que sur le plan du droit, les arguments des parties civiles et du ministère public tiennent à forcer les preuves de l'implication de sa cliente alors qu'elle n'en existait pas d'après la défense. Les parties civiles continuent d'exiger la comparution de Bivouala, un des gardes du corps de Karine, que la justice n'arrive toujours pas à appréhender. Seul Tokis Kumbo, son deuxième garde du corps, comparé à ses côtés et contre qui le ministère public a aussi requis la servitude pénale à perpétuité.
À un jour de la clôture de la session parlementaire de septembre, le Sénat travaille d'arrache-pied pour voter toutes les matières essentielles de la dite session. Après avoir voté hier la loi portant reddition des comptes 2020 et le collectif budgétaire 2021, le Sénat examine en 3 jours seulement, au lieu de 20 jours fixés par la loi, le projet du budget 2022. Au cours du débat général dimanche, un accent a été mis sur l'exécution de la part réservée aux provinces et aux 145 territoires de la RDC pour booster le développement des entités territoriales décentralisées. Explication, Michel Kifindangoy.
Déjà adopté à l'Assemblée nationale, le projet du budget 2022 est parvenu aux sénateurs avec un grand retard, d'où son examen en mode d'urgence. Le président du Sénat a émis le vœu de la création des comités locaux de développement par décret du Premier ministre pour gérer les fonds qui seront mis à la disposition des territoires. Modeste Bahati.
Il faudrait que nous puissions demander au Premier ministre de prendre un décret pour créer des comités locaux de développement où les gens seront désigner SKIT dans ces comités locaux de développement, puis on va trouver la représentation des élus locaux et nationaux, la société civile, les privés, les partenaires, les églises, de manière à ce que ces comités locaux prennent en charge la gestion des fonds qui vont être mis à la disposition du territoire.
Ce mardi, le gouvernement apportera des explications au Sénat en ce qui concerne le manque du budget conséquent alloué à la défense, à l'investissement, à la recherche scientifique, à l'agriculture, pêche et élevage. Le rapport de la commission ECOFIN et bonne gouvernance sera examiné mercredi en plénière avant de passer au vote du budget 2022 et à la clôture de la session de septembre.
Kasaï Oriental, clôture hier à Mbujimayi de la foire commerciale Kenya-RDC. Cette rencontre de haut niveau a été organisée par la direction générale de Equity Bank BCDC. Ces travaux d'un jour se sont effectués dans plusieurs panels pour faciliter directement les contacts entre les investisseurs kenyans et les opérateurs économiques évoluant dans des domaines porteurs d'espoir, dont l'agriculture, l'entrepreneuriat, les mines, l'énergie et bien d'autres. Les deux parties congolaises et kenyanes attendent la concrétisation de ce partenariat gagnant-gagnant. Esther Ndalafina nous en dit plus.
D'après ingénieur Chantal Moulanga, chef de bureau à l'inspection de l'agriculture, les investisseurs kenyans ont été édifiés sur les conditions favorables pour la production à grande échelle de denrées alimentaires dans tout l'espace Kasaï.
Toutes les potentialités possibles et les atouts étaient retrouvés. Il y avait la ressource humaine, la disponibilité de l'hydrographie, c'est-à-dire l'eau. Il y avait les sols favorables. J'avais trouvé qu'il y avait urgence d'intervenir.
Pour être utile, Gertrude Ndaya souhaite que les habitants réfléchissent au développement du commerce international.
Pour que ces échanges ne soient pas dans un sens unique, nous aussi nous devons avoir nos produits que nous vendons à l'extérieur.
Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC, demande aux opérateurs économiques de proposer des projets bancables à Equity Bank BCDC pour accéder aux fonds.
Tous ceux qui détiennent de bons projets doivent les soumettre et présenter les garanties bancaires nécessaires pour pouvoir bénéficier de ces financements, chose que nous apprécions.
Christine Maïna, coordonnatrice de la Chambre de commerce Kenya RDC, promet de faire le suivi pour la concrétisation de certains marchés. Comme nous les avons amenés ici, nous allons faire le suivi pour s'assurer que les marchés conclus seront exécutés. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Retour en Ituri. À la veille des festivités de fin d'année, les habitants de Bounia se plaignent de la hausse de prix des produits de première nécessité sur le marché. Ils disent ne plus être en mesure de répondre aux besoins de leur famille par manque de moyens. De leur côté, les opérateurs économiques déplorent l'impraticabilité de certains axes routiers et l'insécurité qui gangrène plusieurs coins de l'Ituri. Conséquence, il est difficile de se ravitailler en marchandises. Radio Capi a fait un tour au marché central de Bounia. Jean-Claude Lowe qui nous propose ce reportage.
Il est presque 11h lorsque nous arrivons au marché central de Bounia. Ici, les allées sont presque vides. Pour cause, les clients se font rares. Les quelques personnes rencontrées disent éprouver des sérieuses difficultés à se trouver des biens à hauteur de leur bourse et ce, en prévision des festivités de fin d'année.
La monnaie ne circule pas. Même les activités commerciales tournent au ralenti. Mais les enfants ne comprennent pas que les parents éprouvent des difficultés pour répondre à leurs besoins.
Parmi les articles dont les prix ont galopé sur le marché, on peut citer le bidon d'huile végétale de 20 litres, qui se négocie actuellement à 36 $ américains au lieu de 32. Une mesure de haricots de 10 kilos revient à 6 $ au lieu de 4. Un sac de charbon, de bois coûtait 15 $. Aujourd'hui, ça se négocie à 20 $. Pour les opérateurs économiques, cette hausse de prix est due principalement à la situation sécuritaire, notamment sur la RN27, qui ne leur permet pas de se ravitailler en marchandises.
Ce n'est pas de notre faute. Il y a l'insécurité, il n'y a pas de route praticable. L'État doit rétablir la sécurité pour que les gens circulent normalement. C'est ce qui peut faire baisser les prix des denrées sur le marché.
De son côté, le chef du marché fustige le comportement de certains marchands qui exagèrent dans la fixation des prix de leurs marchandises, une attitude qui, selon Dieudonné Lingisabo, pénalise les personnes qui ont un pouvoir d'achat trop faible. Bounia, Jean-Claude Luki, Dile, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Nous sommes en Tunisie. Le président tunisien Kais Saied s'est exprimé hier dans la soirée. Il a évoqué la situation de l'Assemblée des représentants du peuple qu'il a décidé de suspendre. Voici 5 mois maintenant. L'institution restera inactive pendant toute l'année 2022 jusqu'aux élections prévues en décembre prochain. Syrie, le PDG d'une entreprise danoise a été condamné ce mardi à 4 mois de prison et 2 des sociétés du groupe à près de 5 millions d'euros d'amende. C'est pour avoir violé l'embargo européen sur la Syrie en vendant du kérosène à l'armée de l'air russe. Le tribunal de Dens dans le centre du Danemark a reconnu la société Danbankring coupable d'avoir vendu à 33 reprises entre 2015 et 2017 un total de 172 000 tonnes de kérosène environ à 2 entreprises russes. Ces grandes quantités de carburant ont ensuite été livrées en Syrie où elles ont servi aux avions de combat russes dans le pays.
L'invité.
Comme annoncé ce midi, nous recevons le docteur Jérémy Mouindo, président de la commission prise en charge médicale au sein du comité de riposte contre Ebola à Beni. Avec lui, nous parlons de l'incendie qui a consumé la crèche du centre de traitement d'Ebola à l'hôpital général de Beni. Incendie survenu en fin de la semaine dernière. Il estime qu'il est urgent que les autorités sanitaires ainsi que les partenaires interviennent pour réhabiliter cette unité de prise en charge des personnes atteintes d'Ebola. Docteur Jérémy Mouindo s'entretient avec André Kitenge.
Docteur Jérémy Mouindo, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Docteur, il y a eu un incendie qui s'est produit la nuit du vendredi au samedi dernier au centre de traitement d'Ebola. Quel bilan dressez-vous après ce drame?
Oui, merci. Justement, la date du 10 décembre 2021, donc dans la nuit du vendredi au samedi, il s'est produit un incendie dont l'origine reste jusque-là à élucider. Il y a toute une équipe qui est déjà instituée pour essayer de mener les enquêtes afin d'établir justement ce que serait la cause de cet incendie. Et que le bilan, il est assez lourd parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas eu à sauver le matériel qui était stocké dans cet établissement de prise en charge et d'encadrement, surtout de surveillance des enfants, dont les mères sont affectées par la maladie à virus Ebola. Et que donc c'est une situation assez préoccupante pour nous de la commission prise en charge médicale, surtout que nous ne savons plus aujourd'hui comment héberger ces enfants. Voilà, c'est ce qui nous préoccupe pour l'instant, c'est le fait que nous n'avons plus d'autres structures de nature à nous permettre la continuité de nos activités au sein de la crèche.
Pensez-vous que cette situation a une incidence négative dans la prise en charge ou dans la riposte contre Ebola?
Effectivement, parce que, comme vous le savez, une maman, une mère qui est isolée parce qu'il présente des signes, on est obligé de les séparer, de le séparer de son enfant. Et c'est cet enfant qui était destiné, en fait, à aller à la crèche pour la surveillance et pour son encadrement. Mais au stade actuel, donc, allez-y comprendre que nous n'arrivons plus à isoler, à séparer l'enfant de sa mère et que tout ça, ça impacte négativement sur le beau déroulement, le bon fonctionnement de nos activités. Quand nous devons garder un enfant et à côté de sa mère qui est devenue pourtant suspecte de la maladie à virus Ebola, donc ça impacte négativement vraiment sur le beau déroulement de nos activités.
Concrètement, qu'est-ce qui est parti en fumée?
Comme je le disais tantôt, tout ce qui était vraiment comme équipement bureautique, tous les intras PCI, les jouets des enfants, même tout ce qui avait comme jus, de l'eau, des biscuits pour les enfants, bref, Tout cela, tous les matériels et tous les intrants qui m'ont facilité la prise en charge et le bon encadrement de ces affaires, tout avait été vraiment remis à centre parce que tout ce que nous avons eu à récupérer, c'était juste un congélateur et quelques chaises en plastique, mais la quasi-totalité de tout ce qu'il y avait comme matériel, équipement, intrants, tout était vraiment remis à centre, allez-y comprendre, avec une construction à bois. Donc nous n'avons pas pu sauver malgré tout les efforts qui étaient fournis pour essayer d'éteindre les feux, mais malheureusement sans succès parce que tout ce que nous avions fait c'était délimiter pour que cette incendie ne puisse pas embraser aussi les autres bâtiments qui étaient dans les parages et pourquoi pas même les autres services de l'hôpital.
Que recommandez-vous aux autorités sanitaires du pays par rapport à ce qui est arrivé dans le plus bref délai?
Bien, premièrement, nous allons recommander à nos autorités, aussi à tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette lutte, de pouvoir rapidement trouver une autre solution parce que nous sommes encore en pleine épidémie. C'est nous aider à trouver une autre solution alternative et en attendant qu'une construction d'une nouvelle crèche soit entamée. Mais ici, nous insisterons peut-être après avoir tiré beaucoup de leçons dans tout ce qui nous est arrivé. Donc ici, nous devons plutôt prévenir que pareille situation ne nous arrive plus parce que des constructions à bâches, des constructions à semi-durables, à planches et tout, voilà, tout a été consumé. Donc si dans les jours à venir, on peut encore penser à nous construire une nouvelle crèche, que cette fois-ci, elle soit quand même un matériau durable, et c'est pour essayer de minimiser en fait non seulement les risques, mais même si sans dit, il y aurait une construction à dire, il y a toujours moyen de sauver quelque chose avant que le pire n'arrive.
Docteur Jérémy Mouindo, je vous remercie.
Et à moi, je vous remercie aussi.
Le président de la commission prise en charge médicale au sein du comité de riposte contre Ebola à Beni était avec André Kitenge. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikota Tivueta. Alain Goy à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.